rencontre avec nos évêques.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Thibaut de Thuil au micro de Radio Présence pour notre émission hebdomadaire de rencontre avec l'un des évêques de notre sud-ouest. Bonjour Monseigneur Echène.
Bonjour.
Vous êtes évêque de Pamiers, Couseron et Mirepoix en Ariège. Et avec vous, pendant ce mois de février, nous parlons de vos nouvelles orientations diocésaines rassemblées dans un livret dont je recommande à tous les lecteurs, à tous nos auditeurs, la lecture « Écosystème pour vivre en chrétien en Ariège ». La deuxième des orientations aborde un sujet dont nous avons déjà longuement discuté l'année dernière, dans cette même émission, la pauvreté. Vous écrivez en parlant de Dieu, « La joie du don total, c'est la joie de celui qui ne peut rien garder, rien posséder. » Ça doit être un idéal pour nous ?
Je crois, oui, parce que chrétiens, nous sommes appelés de manière très forte, et la première fois, le jour de notre baptême, à être pour le monde d'autres Christ. Et la démarche même du Christ est une démarche fondamentale d'offrande. Le Christ s'offre lui-même à son Père dans l'Esprit jusqu'à tout laisser. C'est cette fameuse hymne de l'Épître aux Philippiens, lui qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est abaissé lui-même, prenant la condition de serviteur. Et on retrouve ce beau signe d'abaissement quand on célèbre le Jeudi Saint et le symbole, le rite du lavement des pieds, vraiment le Christ qui manifeste que Dieu ne regarde pas les humains du haut vers le bas, du haut de sa splendeur, mais il regarde les humains du bas vers le haut, c'est-à-dire en prenant la dernière place, la place du serviteur, du pauvre, du souffrant. Et donc c'est cette idée-là qui est très forte, et nous, si nous voulons être témoins d'un Dieu qui s'engage sur ce chemin-là, il faut nous efforcer d'être dans la même attitude, dans la même condition. Lui qui était de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Alors, quelle condition a-t-il assumé ?
Mais vous allez loin dans la place que vous exigez des plus pauvres, puisque vous allez jusqu'à questionner même la gouvernance de l'Église et de votre Église. Comme vous dites par exemple, les plus humbles sont-ils au centre de notre organisation ecclésiale ? Et qu'est-ce que vous vous gênez comme défi à vous-même en disant cela ?
Je prendrai un exemple. Dans certaines communautés chrétiennes, c'est le cas à Pamiers, ceux qui nous accueillent à l'entrée de l'Église pour nous dire bonjour, pour nous donner la feuille de célébration, pour nous indiquer les particularités de la célébration du jour, sont vraiment des gens très modestes, parfois ayant peu de reconnaissance sociale, pas de travail, parfois en déséquilibre physique ou psychologique, et ce sont eux qui accueillent au nom de l'Église. Et je trouve que là, on est dans des choses assez belles. Dans nos conseils paroissiaux, ou nos équipes d'animation pastorale, ou nos équipes paroissiales, c'est vrai que parfois, quand on s'interroge sur qui nous pourrions solliciter, on pense immédiatement au cadre d'une entreprise. Il n'y en a pas énormément en Ariège, mais il en reste quelques-unes. En se disant, tiens, il pourra nous apporter sa compétence. Alors, ce qui est vrai, il faut aussi qu'il y ait des personnes sur ce registre-là. Mais parfois, quand il s'agit de faire résonner l'Évangile et de trouver des pistes qui soient fructueuses pour notre temps, eh bien, cette piste fructueuse pour notre temps viendra parfois de quelqu'un qui est accueilli par une équipe du Secours catholique, qui a peu de reconnaissance sociale, mais qui va nous donner au nom du Seigneur une lumière sur l'Évangile qui ne peut venir que des pauvres qui connaissent une certaine proximité extraordinaire avec Dieu lui-même. Le pauvre, c'est une sorte de quasi-sacrement de la présence de Dieu. Donc ils peuvent nous dire des choses. Parfois, il faut les aider à formuler, à reformuler, non pas le faire à leur place, mais non pas dire à leur place ce qu'ils souhaiteraient dire, mais dire, est-ce que c'est bien ça que tu entends me dire ? Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que je peux écrire ça sur le compte-rendu ? S'il nous dit oui, c'est bon.
Parce que vous poussez effectivement les catholiques ariégeois à s'interroger sur cette place des plus pauvres, mais en poussant ce genre de questions, par exemple, vous dites quantifier, qualifier le temps que l'on passe avec les pauvres ou l'inventivité que l'on déploie pour eux. Mais c'est vrai que se poser ces questions à nous-mêmes, ça peut presque nous culpabiliser d'en amener à calculer ça. Mais dans ma journée, dans ma semaine, combien de temps est-ce que j'ai passé avec un pauvre? Mon Dieu, 10 minutes parce que je me suis arrêté au feu rouge la dernière fois. Ça peut...
Mais c'est vrai, alors évidemment, quand on écrit des choses comme ça, on les écrit pour soi-même, et puis parfois on n'est soi-même pas à la hauteur de ce que l'on écrit. Hein. C'est un peu le destin, malheureusement, des prédicateurs. Si on était à la hauteur de nos prédications, cela se saurait, ou s'il fallait
Allons.
attendre d'être à la hauteur de l'Évangile pour prêcher, on n'aurait que des prédicateurs muets.
Oui.
Mais si je prends là aussi un simple exemple, en me déplaçant sur la place du marché le samedi matin en allant à Pamiers, je pourrais, si je quantifie un peu les relations que j'établis avec des gens, les saluts que je donne, est-ce que je ne salue que les notables, c'est-à-dire que Monsieur le maire qui profite aussi du samedi matin pour faire son tour sur le marché, ou telle personne fortement engagée dans l'église et à laquelle j'ai oublié de poser une question suite au dernier conseil économique, ou est-ce que je salue aussi cet homme qui est là, assis au bord, qui tend la main et qui demande une pièce, est-ce que je prends le temps avec lui de savoir s'il a passé une bonne semaine, si son chauffage fonctionne encore? Donc ça, je peux le quantifier, et ça dit des choses de mes priorités, ou du temps que je consacre à mes contemporains, et de la place que j'accorde ou que je n'accorde pas aux pauvres.
Merci, Monseigneur Hachène. Je suis obligé de sauter d'une orientation à l'autre, c'est terrible de vous couper comme ça. La troisième orientation parle du baptême et de la manière d'être visible au monde comme baptisé. Vous rappelez que c'est aux baptisés de prendre en main leur vie de baptême et que l'initiative du rassemblement doit venir d'eux, les pasteurs n'étant plus qu'en quelque sorte les garants d'une cohérence. Est-ce que ce n'est pas un peu au risque d'une église patchwork?
Alors oui, une église patchwork, je pense qu'elle a toujours été l'église dans cette réalité de patchwork, c'est-à-dire un peu comme un vitrail, finalement pour que sur un vitrail, on puisse apercevoir le visage du Christ qui est représenté, en admettant que le maître verrier voulut représenter le Christ. Pour qu'on puisse le voir, il faut qu'il y ait des morceaux de verre de différentes couleurs. S'ils sont tous transparents, alors éventuellement il y a le surlignage de plomb qui pourrait faire apparaître la silhouette, mais on ne verrait pas grand-chose. Donc l'Église, c'est un peu la même chose. Il y a cette multiplicité de charismes, de ministères, d'âges, de conditions. Et puis, dans cette orientation-là, ceux que l'on visait, c'était à sortir d'une sorte d'état de dépression, entre guillemets, en se disant, mais si on regarde le nombre de prêtres qu'il y avait en Ariège il y a 50 ans, on se dit, ça a considérablement diminué. Mais en même temps, quand on regarde bien, on s'aperçoit que dans tel ou tel village, le jour où on s'y rend pour une fête locale, bien des chrétiens baptisés sont présents. Et simplement, peut-être que ces chrétiens baptisés, qui au nom du baptême sont prêtres, prophètes et rois, n'ont pas encore pris la mesure de ces appels de l'Évangile, et puis plus proche
appel à
de
chacun.
Nous du Concile Vatican II, qui nous dit finalement, baptisés, nous sommes, là où nous sommes plantés, des témoins du Christ. Et pour nous aider à être témoins du Christ, bien sûr, on aura besoin de ministres ordonnés, mais quelques baptisés se rassemblant dans un village peuvent faire signe du Christ, peuvent aller se nourrir de l'Eucharistie dans une autre commune si les prêtres sont moins nombreux et que l'Eucharistie ne peut pas être célébrée dans chaque village. Mais quand ils reviennent chez eux, ils sont là témoins du Christ. J'ai le souvenir, j'ai eu l'occasion avec les missions étrangères de Paris d'aller au Cambodge, dans des communautés chrétiennes naissantes, puisque le christianisme avait quasiment disparu avec la période des Khmers rouges. Et j'ai souvenir d'un lieu où les missions étrangères de Paris, avec les habitants, la construisaient une église. Et au début, le seul chrétien qu'il y avait dans ce village, c'était quelqu'un qui allait le dimanche matin, faisait 30 km à pied pour participer à une messe dans un village éloigné. Et quand il revenait, en gros, il racontait à ceux qui l'entouraient, ce qu'il avait entendu, l'évangile qui lui avait été annoncé, et il faisait une sorte de catéchèse. Donc la naissance des communautés chrétiennes, ça vient aussi du baptême et des chrétiens qui se reconnaissent comme disciples de Jésus.
En ne se nourrissant pas nécessairement à l'Eucharistie, mais aussi en faisant communauté, une communauté pour le partage de la parole, une pour la catéchèse, une pour aller à la rencontre, En fait, vous c'est un peu une révolution, vous préconisez là, de pousser comme ça les chrétiens à faire communauté, pas nécessairement autour de l'Eucharistie.
Oui. Alors, à un certain moment, il faudra faire communauté autour de l'Eucharistie, qui est la source,
qui est la source,
le sommet de la vie de
oui.
l'Église. Mais là où on est, un peu comme dans une liturgie ou une vie familiale, dans une vie familiale, on est parti éventuellement ensemble, et c'est pas toujours le cas malheureusement, dans certaines familles, participer à la messe le dimanche, mais ensuite en famille, on prie ensemble. En famille, on lit la parole de Dieu. En famille, on vit quelques corrections fraternelles en se disant, dis donc, on est chrétien, mais là, ce que tu vis avec ton frère, c'est quand même pas tout à fait en harmonie avec l'Évangile. On s'occupe de son voisin qui est malade au nom du Christ et de son Évangile. Donc c'est cela qu'on voudrait revitaliser dans certains villages, que les gens ne se disent pas, oui, finalement, le Christ n'est plus présent dans ce village parce qu'il n'y a plus de prêtres. Oui, c'est vrai, il n'y a plus de prêtres, mais il y a des baptisés qui sont témoins du Christ.
Il y a des veilleurs, ce que
des
vous
veilleurs,
dites.
Oui.
Vous employez le mot veilleur ici.
Voilà.
D'accord. Et ainsi, vous positionnez plus les pasteurs, un peu comme saint Paul, vous prenez l'image, avec un ministère d'itinérance. Vous voyez vous-même avec un ministère d'itinérance.
Voilà, ça induit, dans la mesure où les pasteurs sont moins nombreux et ils sont là pour aider ces petits groupes de baptisés à être de vrais témoins ensemble et à quelques-uns du Christ, il faudra et il faut qu'ils passent de village en village pour dire, voyons, qu'est-ce que vous vivez ? Est-ce que votre annonce de la parole est bien ancrée dans une saine connaissance de ce que le Christ veut nous dire ? Donc il y a une dimension d'enseignement. Je vais vous apporter les sacrements, le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de la confirmation pour ceux qui ne l'ont pas vécu, le sacrement de la réconciliation pour vous mettre à nouveau en harmonie, en alliance avec le Seigneur. Et ensuite, nourri de la parole, de l'enseignement, des sacrements, réconforté, ces chrétiens vont laisser partir ce pasteur itinérant qui, lui, va partir vers une autre communauté, faire le même travail dans un autre groupe.
Très bien. Merci beaucoup, Monseigneur, Monseigneur Echen, de nous avoir accompagnés aujourd'hui.
Merci à vous.
Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour évoquer de nouvelles orientations diocésaines.
Rencontre avec nos évêques.